Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chères femmes, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le 22e dimanche après la Pentecôte, mais c'est aussi le dimanche des missions, et l'Église demande d'ajouter à l'oraison du dimanche, à l'oraison du 22e dimanche après la Pentecôte, l'oraison de la messe votive pour la propagation de la foi. Il nous faut prier pour les missions. Cela veut dire en fait qu'il nous faut prier pour les vocations, mes bien chers frères. Le nombre de vocations aujourd'hui est ridiculement petit dans la tradition. Il faut avouer qu'il n'est pas toujours très facile d'arriver à trouver des endroits corrects, suffisamment sûrs, dans lesquels nous pouvons envoyer des vocations. Et donc il faut prier le bon Dieu de nous envoyer des vocations et prier le bon Dieu de nous envoyer des endroits où nous puissions envoyer les vocations. Je vous lis cette magnifique oraison de la messe votive pour la propagation de la foi, qui est peut-être une des plus belles oraisons du missel. Ô Dieu, qui voulait que tous les hommes parviennent au salut et à la connaissance de la vérité, daignez envoyer des ouvriers dans votre moisson et leur donner d'annoncer avec confiance votre parole afin que votre doctrine se répande et soit glorifiée, que toutes les nations puissent vous connaître, vous le seul vrai Dieu et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ votre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous en unité du Saint-Esprit. Je pense que cette oraison explique tout. La moisson est abondante, donc il faut envoyer des ouvriers à la moisson, il faut des vocations. Et c'est pour cela que l'Église a choisi, comme évangile, de la messe votive pour la propagation de la foi, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Je voudrais utiliser cet évangile pour vous expliquer un petit peu, avec la grâce du bon Dieu, pourquoi nous devons prier pour les vocations. En voyant les foules, notre Seigneur en eut compassion, parce qu'elles étaient lasses et abandonnées comme des brebis qui n'ont point de pasteur. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans cette moisson, dans sa moisson. » Je crois que cette phrase semble avoir été écrite vraiment pour nos jours, pour le jour de 2018, car nous sommes, nous aussi, là. Nous semblons avoir été abandonnés comme des brebis qui n'ont point de pasteur. Et parce que nous sommes malheureusement orphelins d'autorité, maintenant depuis pratiquement 60 ans, depuis la mort du pape Pie XII, eh bien, nous aurions certainement tous, moi le premier, peut-être la tentation de nous décourager en nous disant, mais combien de temps ça va durer? Est-ce que le bon Dieu nous a oubliés? Très souvent, je reçois des messages ou des coups de téléphone de gens qui me posent toujours la même question. Mais monsieur l'abbé, vous êtes célévacantiste, mais combien de temps ça va durer, ce célévacantisme? Pendant combien de temps allons-nous devoir conserver la foi avec sans pasteur? Et comment envisagez-vous, monsieur l'abbé, un retour à une situation normale? Je réponds toujours de la même façon. Eh bien, le retour à une situation normale est impossible, humainement parlant. L'arbre est trop pourri. Mais Dieu, lui, ne pourrit jamais, parce qu'il est, il est Dieu. Et le problème de revenir à une situation normale n'est pas mon problème. C'est le problème du bon Dieu, et le bon Dieu sait exactement comment il va faire pour amener ça à une situation normale quand il le voudra et comme il le voudra. Et si le bon Dieu veut que nous restions comme les Japonais, les Chinois qui sont restés pendant 3 siècles sans prêtre à cause des persécutions après la prédication de Saint François Xavier au XVIe siècle, eh bien le bon Dieu nous donnera les grâces d'État pour que vous et moi nous puissions rester, nous et nos enfants et ceux qui nous succéderont, que nous puissions rester pendant 3 siècles sans foi. Voilà ce qu'il nous faut comprendre, mes bien chers frères. Il y a, je crois, bien des choses dans cette oraison. Il faut vraiment la méditer. Qu'est-ce qu'il faut comme vertu pour ne pas perdre la foi aujourd'hui? Je pense qu'il faut d'abord la vertu d'humilité. Et deuxièmement, il faut la vertu de pureté. Pureté, pureté dans la foi. Et pureté dans la vertu de chasteté, avec la vertu de chasteté, bien entendu. Daignez envoyer les ouvriers dans votre moisson. Il faut demander. Peut-être que si nous n'avons pas assez de vocation, c'est que nous ne demandons pas, ou nous demandons mal, ou nous demandons comme il ne faut pas. Est-ce que nous demandons avec humilité que le bon Dieu donne des ouvriers dans sa moisson, pour qu'ils annoncent avec confiance sa parole? Pour que sa doctrine se répande et soit glorifiée dans toutes les nations, que toutes les nations puissent reconnaître, lui qui est le seul vrai Dieu. Vous savez, peut-être que ce manque de vocation que nous supportons, ce manque de vocation qui nous fait tellement souffrir, c'est peut-être aussi un châtiment du bon Dieu. Peut-être que nous ne méritons pas d'avoir des vocations parce que le nombre de familles qui gardent encore l'esprit du monde hors d'elles-mêmes, qui luttent contre l'esprit du monde, le nombre de véritables familles catholiques est très très petit, même dans la tradition, et même dans la tradition cédévacantiste. Combien de familles cédévacantistes je connais qui malheureusement laissent pénétrer dans leur famille des choses qui ne devraient pas exister dans une famille catholique. Il est évident que si madame se met en pantalon toute la journée ou trop souvent dans cette famille, si monsieur laisse la télévision rentrer dans la famille, si les écrans ont une place trop importante dans la famille, bien le bon Dieu ne va pas envoyer des vocations dans cette famille. Donc il faut l'humilité, mes bien chers frères. Je crois que c'est la première vertu qu'il nous faut demander en ce dimanche d'émission, la vertu d'humilité, pour nous rappeler que nous ne pouvons rien sans la grâce du bon Dieu. Peut-être qu'il nous faut aussi augmenter la foi. Si nous n'avons pas de vocation, si nous avons bien du mal à conserver la foi à cause du combat terrible qui est le nôtre aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi parce qu'on manque de foi, on manque de foi à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bon de se rappeler l'enseignement du catéchisme, l'enseignement de l'Église catholique concernant justement la nécessité de l'Église catholique pour aller au ciel. Si les gens se damnent aujourd'hui, si les âmes tombent en enfer aujourd'hui comme les flocons de neige en hiver, pour reprendre l'expression de la petite Jacinta à Fatima, eh bien c'est peut-être bien parce qu'on n'a plus assez de foi en la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On a presque peur de se présenter comme catholique, d'agir comme catholique, de s'habiller comme un catholique, de penser comme un catholique, d'éduquer nos enfants comme un catholique. Oh, je ne dis pas que c'est une chose facile, car il nous faut nous battre. Je voudrais, peut-être pour vous renforcer dans votre foi, vous rappeler la doctrine de l'Église sur ce domaine. En gros, c'est l'explication du dogme de la foi catholique, qui est certainement un des dogmes les plus importants. Hors de l'Église catholique, pas de salut. Il ne peut y avoir de salut hors de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et comme l'Église est divine, en dehors du seul et unique vrai Dieu, il ne peut pas y avoir de salut. Je pense qu'il faut reprendre et méditer sur certaines des propositions d'un des textes les plus importants du magistère. Monseigneur Lefebvre nous disait avec raison que Quanta Cura le Syllabus du Pape IX, 1864, représentait certainement les textes des magistères les plus importants pour le dernier siècle, les deux derniers siècles. Je voudrais vous rappeler quatre des propositions du Syllabus. Le Syllabus est un groupe de propositions condamnées par l'Église. Voilà quatre propositions condamnées par l'Église justement pour lutter contre l'indifférentisme. Peut-être que si nous avons tant de mal à conserver nos vocations et tout de même d'avoir des vocations dans nos familles catholiques, c'est peut-être bien aussi par manque de foi, encore une fois. Parce que nous avons du mal à concevoir le dogme de foi hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. voudrais vous lire les propositions 15, 16, 17 et 18 du syllabus du pape Pie IX en 1864. Donc, quatre propositions, attention, ce sont les propositions condamnées. Donc, l'Église enseigne le contraire de ces propositions condamnées. Voilà les quatre propositions condamnées. La 15. Il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après les lumières de la raison. Proposition numéro 16. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Proposition condamnée numéro 17. Toutefois, doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église de Christ? Et numéro 18, proposition condamnée donc, le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. Et donc, il faut maintenant plus que jamais enseigner le contraire de ces quatre fausses propositions. Donc, qu'est-ce que l'Église enseigne? Que la lumière de la raison n'est pas suffisante pour avoir la foi catholique. Qu'il faut recevoir ce don de la foi qui nous fera comprendre qu'il n'y a qu'une seule religion et qu'on ne peut trouver le chemin du salut éternel en dehors de l'unique religion fondée par l'unique vrai Dieu. Et qu'il n'est pas possible de trouver son salut en dehors de l'unique arche du salut qu'est l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et que donc le protestantisme et que les autres fausses religions comme le protestantisme ne représentent pas une forme diverse de la même religion catholique, la religion chrétienne, et qu'on ne peut pas, avec ces fausses religions telles que le protestantisme ou l'Église de Vatican II, on ne peut pas être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique. Je suis persuadé, mes bien chers frères, que si nous sommes dans ces vacances, si nous sommes orphelins d'autorité, c'est tout simplement un châtiment du bon Dieu. On ne l'a pas volé, comme on dit vulgairement. On ne l'a pas volé parce que, justement, on a trop voulu peut-être compter sur nous-mêmes. Alors le bon Dieu nous retire, en quelque sorte, une autorité dont nous aurions bien besoin et permet que nous soyons sans autorité pendant un certain temps dans l'Église catholique, afin justement de nous obliger à pratiquer l'humilité et à beaucoup plus compter sur notre Seigneur Jésus-Christ que compter sur nous-mêmes. Comme il importe, mes bien chers frères, d'avoir cette vertu d'humilité, je voudrais, pour expliquer ce que je suis en train de vous dire, utiliser un texte qu'on avait au bréviaire il y a quelques jours, qu'on trouve dans le premier livre des Maccabées, au chapitre 5. Voilà ce texte. Pendant les jours auxquels Judas était, ainsi que Jonathas dans la terre de Galaad et Simon son frère dans la Galilée vis-à-vis de Ptolémaïde, Joseph, fils de Zacharie, apprit ainsi qu'Azarias, prince de l'armée, les exploits des autres et les combats qui avaient été livrés. Il dit, « Faisons-nous aussi nous-mêmes un nom, et allons combattre contre les nations qui sont autour de nous. » Il donna des ordres à ceux qui étaient dans son armée, et ils allèrent vers Jamnia. Et Gorgias sortit de la cité, ainsi que ses hommes au devant d'eux. Et Joseph et Azarias furent mis en fuite jusqu'aux confins de la Judée. Et il tomba en ce jour du peuple d'Israël environ 2000 hommes. Et la fuite fut grande parmi le peuple, parce qu'ils n'écoutèrent point Judas et ses frères, s'imaginant qu'ils signaleraient leur courage. Et voilà la phrase clé. Ils n'étaient pas eux-mêmes de la race de ces hommes par qui le salut a été opéré en Israël. En ce jour-là, dit le texte, des prêtres succombèrent aussi dans la guerre, voulant signaler leur courage en sortant sans réflexion pour un combat. Mais eux non plus n'étaient pas eux-mêmes de la race de ces hommes par qui le salut a été opéré en Israël. Et je pense que si nous en sommes là où nous en sommes, en France entre autres, avec pratiquement un pays qui est devenu un pays de mission, redevenu un pays de mission, c'est peut-être bien parce qu'on comptait beaucoup trop sur nous-mêmes. Comme ces soldats qui n'ont pas obéi à Judas Maccabée et qui disaient « Faisons-nous nous-mêmes un nom et allons combattre contre les nations qui sont autour de nous. » Ils n'avaient pas le bon Dieu avec eux, ils n'avaient pas la vertu d'humilité avec eux. Et ils se sont fait massacrer. Donc posons-nous cette question toute simple, est-ce que je ne suis pas moi-même, est-ce que je suis moi-même de la race de ces hommes par qui le salut a été opéré ? Peut-être que je crois être un homme par lequel le salut du monde peut être opéré, mais peut-être que je ne suis rien du tout, justement parce que je compte beaucoup trop sur moi-même et pas assez sur le bon Dieu. Oui, mes bien chers frères, je pense qu'il est capital aujourd'hui de pratiquer cette vertu d'humilité. Il me semble que le problème numéro un dans le milieu de la célévacance, c'est le milieu célévacantiste, c'est l'orgueil. Le nombre de ces célévacantistes qui croient tout savoir, qui croient être les chefs de tout, qui croient pouvoir juger de tout. On a l'impression que Dieu les a créés d'abord et ensuite le reste du monde. Qu'en dehors d'eux, il n'y a pas de salut. Et ils croient tout savoir et ils donnent des leçons à tout le monde à longueur de journée. Eh bien, chers frères, comme nous avons besoin de cette vertu d'humilité, je crois qu'en ce dimanche d'émission, il faut demander cette vertu d'humilité. Cette vertu d'humilité qui est nécessaire au salut, sinon je suis obligé de compter sur moi-même. Et si je compte sur moi-même, je compte sur un fou. Je compte sur un âne. Alors, mes bien chers frères, demandons cette vertu d'humilité à la très sainte Vierge Marie. La France est redevenue un pays de mission et nous avons une autre mission dont nous avons la charge. Ce pays de mission dont nous avons la charge, j'irai avant même d'avoir à faire quelque chose pour notre pays de France, ce pays de mission dont nous avons une charge stricte, c'est notre âme. Et pour ceux qui sont mariés, vos familles, je suis en charge de mon âme. Le bon Dieu me donne toutes les grâces dont j'ai besoin pour maintenir mon âme dans la vertu de foi. Et pour cela, il faut que je la maintienne dans la vertu d'humilité. Le bon Dieu m'a permis que je me donne le sacrement de mariage pour les gens qui sont mariés. Et par ces grâces du sacrement de mariage, il va permettre que vous, votre épouse et vos enfants, vous puissiez conserver la foi. À condition que vous sachiez compter plus sur notre Seigneur Jésus-Christ que sur vous-même. C'est ça un petit peu le drame, c'est que nous comptons beaucoup trop sur nos propres forces. Alors comment s'occuper du territoire de mission qui nous est confié, à savoir notre âme ? Eh bien, je crois que la première chose qu'il faut nous poser tous les matins, c'est de savoir si notre âme est en état de grâce. Si je ne suis pas en état de grâce, que puis-je faire pour notre Seigneur Jésus-Christ ? Rien du tout. Si mon âme n'est pas en état de grâce, en tant que soldat, que puis-je faire pour notre Seigneur Jésus-Christ ? Que puis-je faire dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ si je ne suis pas en état de grâce ? Rappelez-vous Sainte Jeanne d'Arc qui exige d'abord à Orléans que tous les soldats de l'armée française d'abord se confessent et communient avant de porter l'estocade aux Anglais et de délivrer Orléans de la présence des Anglais. Nous sommes, mes bien chers frères, nous ne sommes pas des Saintes Jeanne d'Arc, malheureusement. Nous sommes des pauvres gens, des petites gens. Et c'est précisément, peut-être parce que, étant petits, nous nous croyons très grands, c'est peut-être pour cette raison que le bon Dieu semble, je dis bien semble, nous avoir un peu abandonnés. En fait, il ne nous a pas abandonnés, mes bien chers frères. Le bon Dieu ne nous a pas abandonnés, le bon Dieu, tout simplement, nous met à l'épreuve pour nous obliger à comprendre que c'est lui qui dirige et pas nous. Comme lorsqu'il était dans la barque avec les disciples. Le vent se lève, les vagues montent, la barque est envahie par l'eau et notre Seigneur Jésus-Christ dort, la tête sur un coussin, au fond de la barque. Alors les apôtres ne comprennent plus rien. Seigneur, Seigneur, nous périssons. Et notre Seigneur Jésus-Christ de le reprocher, homme de peu de foi. Alors il se met à l'avant du navire et là il donne des ordres. Le vent se calme et la mer se calme. Eh bien, vérifions, mes bien chers frères, que notre Seigneur Jésus-Christ, la tête sur un coussin d'or dans mon âme, qu'il est dans mon âme, même s'il dort. Et pourquoi il dort alors qu'il faudrait qu'il se batte actuellement à notre tête? Il sait ce qu'il fait. Dieu est invincible, ne l'oubliez pas. Mais il peut permettre, pendant un certain temps, que justement, des âmes soient obligées de pratiquer la vertu d'humilité parce qu'elles ont trop compté sur elles-mêmes. Mais bien, chers frères, abritons-nous derrière celle qui est la grande chef de guerre, notre Sainte Vierge Marie. Nous avons fêté il y a peu de temps, c'était le 11 octobre, nous avons fêté le plus grand titre de gloire de notre Sainte Vierge Marie, sa maternité divine. Elle est mère de Dieu, elle est Théotokos. Et cette fête a été instituée en 1931 par le pape Pie XI, à l'occasion du 15e centenaire du Concile d'Éphèse, en 431, parce que c'est au cours du Concile d'Éphèse que Saint Cyrille d'Alexandrie a fait proclamer le dogme de la maternité divine de notre Sainte Vierge Marie contre Nestorius. Et je voudrais terminer par cette oraison de la fête de la maternité divine de Notre-Dame. Ô Dieu, qui avait voulu qu'à la parole de l'ange, votre Verbe s'incarna dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, accordez à nos prières que, la croyant véritablement Mère de Dieu, nous ayons un appui auprès de vous dans son intercession, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Comptons beaucoup plus sur la très sainte Vierge Marie que sur nous-mêmes. Comptons beaucoup plus sur le travail de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme que sur notre propre force. Alors le bon Dieu pourra faire ce qu'il veut. Combien de gens se sont convertis justement en se rendant compte qu'ils n'étaient rien. Je voudrais vous donner encore un dernier exemple, sans vouloir trop rallonger ce sermon, mais c'est des choses qui me frappent dans la lecture du bréviaire. Souvent, j'utilise certaines choses du bréviaire pour préparer mes sermons. Là, c'est dans la fête de Saint François Borgia, qui était le troisième successeur de Saint Ignace de Loyola à la tête de la Société de Jésus, des Jésuites. Sa fête est le 10 octobre. Il s'est converti complètement à la mort de l'impératrice Isabelle la catholique. Il fut chargé, à l'époque, de conduire son corps à Grenade, en plein été, pour y recevoir la sépulture. Et arrivé à Grenade, il a dû faire ouvrir le cercueil pour faire pratiquer la reconnaissance du corps. C'était la loi qu'il exigeait. Et en voyant le changement opéré sur le visage de l'impératrice, qui était d'une très grande beauté de son vivant et qui était devenu une pourriture avec tous les vers et la décomposition de son corps à cause de la chaleur et de sa mort, il réfléchit à la vanité de tout ce qui est mortel. Il s'engagea par vœu à se dépouiller de tous ses biens dès qu'il le pourrait pour ne plus servir que le roi des rois. Dès lors, il avança tellement dans la vertu qu'au milieu des affaires du siècle, il reproduisait tous les traits de la perfection religieuse qu'on appelait le prodige des princes. Demandons, mes bien chers frères, nous aussi, de nous décontaminer du libéralisme du monde moderne pour que nous puissions appartenir complètement par la très sainte Vierge Marie à celui qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Comptons beaucoup plus sur lui. Alors à ce moment-là, notre âme va pouvoir devenir un territoire de mission. Et si notre âme devient un territoire de mission, alors notre famille va pouvoir devenir elle aussi un territoire de mission. Et le bon Dieu appellera, s'il le veut, et si c'est nécessaire, il appellera à ce moment-là certaines de nos âmes, des âmes dont nous avons la charge, certaines de nos enfants, pour le servir, dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Donc plaçons tout cela, mes bien chers frères, entre les mains de celle qui est mère de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.